Washington, la voix de l'Amérique. Tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi, à partir de 5h30, TU.
Bonsoir à tous. Bagassi Koura, micro pouce bulletin d'information. Nous commençons par la République démocratique du Congo. Au moins 30 personnes ont été tuées dans la nuit de vendredi à samedi au sud de Kivu. Selon l'agence France-Presse, cela fait suite à un conflit foncier persistant entre deux ethnies dans cette région de l'est du pays. Selon des sources citées par l'AFP, les victimes de l'ethnie Bafoulouri ont donc été tués à l'arme blanche et par balle pour la plupart alors qu'elles dormaient dans une église protestante après avoir participé à une assemblée générale de fidèles. L'AFP précise qu'on ignore l'identité des auteurs de la tuerie, mais les Bafoulirou sont en conflit depuis une dizaine d'années avec une autre ethnie, les Barundi, pour des questions foncières et coutumières. Cette nouvelle, pas du tout rassurante, les experts affirment que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest est loin d'être sous contrôle. Le virus a tué plus de 200 personnes depuis son apparition en Guinée en février dernier. Elle se propage par contact direct avec les fluides corporels d'une personne infectée. Même après que la personne soit morte, des dizaines de nouveaux cas d'Ebola ont été signalés en Guinée et en Sierra Leone voisine. Depuis la fin du mois de mai, le libéral, lui, n'a pas signalé de nouveaux cas. En un mois, au Nigeria, le Weekly Trust, un hebdomadaire, a annoncé avoir été empêché de distribuer ses magazines dans plusieurs régions au lendemain d'une opération de sécurité menée par l'armée, visant notamment les véhicules de livraison de 4 quotidiens nationaux. Déjà vendredi, The Daily Trust et 3 autres quotidiens avaient annoncé avoir vu leur édition du jour saisie. « Nous n'empêchons aucun journal d'être distribué », a déclaré le général Olajide Laleye, porte-parole de l'armée à l'AFP. Des dizaines de Somaliens soupçonnés d'être des combattants islamistes d'Al-Shabaab infiltrés dans Mogadiscio pour commettre des attentats ont été arrêtés ces derniers jours au cours d'une opération conjointe des forces gouvernementales et africaines. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le gouvernement. Affaire Karim Ouad au Sénégal, des organisations de défense des droits de l'homme ont contesté le tribunal spécial devant juger le mois prochain. Le fils de l'ex-président Abdoulaye Ouad, Karim Ouad, ancien ministre, doit être jugé à partir du 31 juillet pour enrichissement illicite. Il doit comparaître devant la cour de répression de l'enrichissement illicite, une juridiction spéciale réactivée par le président Macky Sall après son élection en 2012 face à Abdoulaye Ouad. Plusieurs ONG, dont la Fédération internationale des droits de l'homme et la Ligue sénégalaise des droits humains, ont publié vendredi un communiqué estimant que cette cour donc n'était pas conforme aux critères internationaux en matière de droit. Et puis en Irak, des hommes armés ont pris d'assaut une université à l'ouest de Bagdad et ont pris des dizaines d'étudiants en otage qui ont été libérés par les forces de l'ordre qui ont réussi à prendre le contrôle des lieux. Selon les autorités, l'attaque a eu lieu à l'université d'Anbar à Ramadi, la capitale de la province d'Anbar. Selon toujours la police, les hommes armés ont tué 3 agents de sécurité de l'université lors de l'attaque. Les États-Unis ont envoyé 2 diplomates de haut rang, de haut niveau donc, à Genève pour des discussions avec l'Iran sur son programme nucléaire. Le secrétaire d'État adjoint William Burns et le sous-secrétaire aux affaires politiques Wendy Sherman, négociateur américain en chef avec l'Iran, rencontreront les responsables iraniens lundi et mardi. Les négociations nucléaires entre l'Iran et le groupe des 6 puissances mondiales connues sous l'appellation P5+1 doivent reprendre le 16 juin. Et puis enfin, du sport dans ce bulletin, le Cameroun a battu ce soir 1-0 la Moldavie en amical à Yaoundé. C'est le jeune Edgar Sali, 21 ans, qui a inscrit le seul but de la partie, son premier but avec les Lions Indomptables sur un service de Benjamin Mukanjo. Ce résultat en Ligue des Champions donc a signalé hier soir à Khartoum. El Hilal du Soudan et l'AS Vita Club de la RDC ont fait jeu égal 1 but partout. Et demain, les corbeaux du TP Mazembe et de Lubumbashi jouent contre le Zamalek d'Égypte.
Washington, la voix de l'Amérique. Tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel. Et les matins du lundi au vendredi, à partir de 5h30, TU.
Le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique.
Bonjour Nathalie Barr, j'avais une invitée ici dans les studios de la Voix de l'Amérique à Washington, Madame la ministre des Droits humains et de la promotion civique du Burkina Faso, Julie Prudence Nina Sanda. Merci beaucoup Madame d'être avec nous.
C'est moi qui vous remercie, je remercie la Voix de l'Amérique de nous donner cette opportunité d'échanger sur les droits humains.
Alors, vous êtes en visite à Washington pour parler de la scolarité des filles dans votre pays, notamment, entre autres. Mais le sujet, ce sera plutôt, et c'est lié de toute façon, plus ou moins, la lutte contre le mariage des enfants en Afrique. Alors, c'est une lutte qui est menée au plan mondial. Mais en Afrique, une décision a été prise à Addis Abeba le 29 mai par l'Union africaine qui a lancé une campagne justement soutenue par l'UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la population. Alors, selon l'Union africaine, chaque année en Afrique, environ 5,5 millions de filles sont mariées avant d'avoir atteint leur 15e anniversaire. Voici un aperçu de la situation avec Michel Joseph.
Dans les pays en développement, 14 millions de filles de moins de 18 ans sont forcées de se marier chaque année. C'est le cas de Zenabou, nigérienne de 16 ans. Elle dit qu'elle a été retirée de l'école par ses parents pour être mariée. Son mari l'a battue si elle ne voulait pas qu'il la touche. Elle s'est enfuie chez ses parents, mais ils l'ont aussi battue et l'ont ramenée chez le mari. Elle dit qu'elle s'est finalement enfuie chez une tante et qu'elle veut retourner à l'école. La plupart de ces filles sont issues de familles peu instruites et de zones rurales, où les filles n'ont pas le pouvoir de s'opposer aux normes de la communauté. La campagne de l'Union africaine pour mettre fin au mariage d'enfants est axée sur l'action politique et la sensibilisation. Le directeur de la Commission des affaires sociales de l'Union, Olawale Mayegun, dit que les États membres doivent mettre en œuvre des cadres juridiques de protection des enfants. La charte sur les droits de l'enfant, par exemple, comporte des dispositions claires sur les pratiques néfastes à l'égard de l'enfant. Il est très clair que la culture ou la religion ou n'importe quoi d'autre ne peut pas servir d'excuse et les États doivent prendre des mesures pour les éliminer. Les gens utilisent toutes sortes d'excuses pour perpétuer leurs habitudes, mais il n'y a aucune excuse dans la mesure où la Commission est préoccupée. 9 des 10 pays ayant les taux de mariage des enfants les plus élevés se trouvent en Afrique, à savoir le Niger, 75%, le Tchad et la République centrafricaine, 68%, la Guinée, 63%, le Mozambique, 56%, le Mali, 55%, le Burkina Faso et le Soudan du Sud, 52% et le Malawi, 50%. La campagne « Stop au mariage des enfants » de l'Union africaine se fait en coopération avec les gouvernements africains, l'UNICEF et les organisations de la société civile. Pour Martin Mogwanja, directeur exécutif adjoint de l'UNICEF, elle doit continuer jusqu'à ce que toutes les filles dans chaque famille et chaque communauté aient atteint leur 18e anniversaire avant de se marier, a-t-il déclaré à Addis Abeba.
Vous avez entendu cette jeune fille de 16 ans, qui était mariée de force, qui a été battue par son mari. Elle va chez sa tante, elle persévère et maintenant elle veut faire des études. Quel exemple vous pouvez retenir d'une jeune fille comme ça finalement ?
Je dois dire que le mariage précoce comme on le dit, ou l'union précoce comme on le dit, les mariages des enfants, c'est un phénomène qui préoccupe beaucoup les États africains. Et cela ne m'étonne pas que l'Union africaine ait lancé une campagne pour lutter contre le mariage des enfants. C'est un phénomène qui est quelquefois qualifié de traditionnel. Alors, pour changer les mentalités, pour changer les pratiques, c'est une lutte de longue haleine. Et je pense que cette lutte a déjà commencé. C'est vrai que les chiffres avancés sont très alarmants. Il y a des efforts qui sont faits, mais il faut continuer à redoubler d'efforts dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre de l'information, dans le cadre de la sanction. Et l'exemple de cette jeune fille me dit aujourd'hui qu'il faut se battre. Il faut se battre à quelque niveau que l'on est, à savoir une femme adulte, une jeune fille, une petite fille. Pour que ça puisse changer, il faut que nous nous battions tous. Vous avez vu qu'elle s'est réfugiée chez ses parents. Elle a été chassée, réfugiée chez sa tante. Mais elle a tenu à affirmer qu'elle veut fréquenter, elle veut faire l'école, elle veut apprendre à être autonome, elle veut développer ses capacités pour être pour pouvoir en tout cas être autonome, être indépendante, pouvoir servir à sa nation. Et c'est un bel exemple qu'elle a donné. Et moi, j'encourage vraiment les femmes, les filles, les associations qui luttent à continuer dans cette lancée-là.
Alors, vous avez parlé de la tradition, la culture. Alors ça, c'est ce qu'on entend depuis des décennies, comme pour le cas de l'excision. Il faut faire attention, il ne faut pas choquer les mentalités, etc. Mais on est au 21e siècle, n'est-ce pas ? Vous avez entendu ces chiffres, ils sont absolument incroyables. Mmh. Lorsque une petite fille de 9 ans est mariée avec un homme de 30, 40, 50, 60 ans, est-ce que ce n'est pas choquant ?
Mais c'est très choquant, c'est très très choquant. C'est très déplorable et ça nuit vraiment à l'éducation, à la santé de la petite fille. Parce que je vous donne des exemples. Nous avons vécu des cas où à l'école primaire, des jeunes filles de moins de 15 ans, de moins de 13 ans ont été mariées à des hommes. Et au moment où nous avons voulu intervenir, ces petites étaient déjà enceintes. Elles ont dû quelquefois abandonner les classes. Elles ont dû donner naissance en perdant la vie. Ou encore, elles ont dû avoir des enfants pendant qu'elles sont elles-mêmes des enfants. Donc, c'est vous dire à quel degré c'est choquant. C'est vous dire à quel degré c'est très, très abominable. Il faut travailler, il faut sanctionner. Et au Burkina, on arrive maintenant à convoquer des gens, à poursuivre des gens pour ce genre d'union-là, pour les punir et justement pour donner l'exemple.
Je reviens sur le cas d'une petite fille de 9 ans hein, qui est mariée de force à un homme de 40, 50 ans. Parce que parlons des faits tels qu'ils peuvent être vécus par
bien
l'enfant.
Sûr,
on parle
bien
d'un
sûr,
enfant
oui.
qui va être forcé à avoir des relations sexuelles
oui.
avec cet homme.
Oui.
Hein. Alors, dans certains pays occidentaux, un homme comme ça se retrouverait immédiatement en prison, en tout cas si on l'attrape. On parlerait de pédophilie. Est-ce que vous utilisez ce terme en Afrique ? Est-ce qu'il est possible de l'utiliser ou non ? Ou est-ce que ce n'est pas un cas de pédophilie ?
Bien sûr que l'on utilise le terme de pédophilie en Afrique et c'est interdit par les lois, c'est prévu, il y a des dispositions pour condamner cela et il y a des gens qui ont été déjà poursuivis, jugés et condamnés pour faire de pédophilie. Parce que quand on parle de pédophilie, il ne s'agit plus seulement des jeunes filles, il s'agit des enfants de manière générale. Et même au Burkina, il y a eu des jugements qui ont condamné des personnes pour des actes de pédophilie et qui aujourd'hui se retrouvent à la maison d'arrêt.
Alors, sur ce, l'Union africaine a bien précisé justement qu'il n'était plus question d'avoir des excuses de culture, de tradition
ben
ou
oui.
autre. Parce qu'on a le sentiment effectivement que jusqu'ici, ce qui freine le progrès finalement, c'est toujours cette excuse de la tradition, de la culture. Mais est-ce qu'il y a des gens qui se posent la question, par exemple, de savoir si un garçon de 9 ans va être marié à une femme de 60 ans ?
Aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé le cadre de l'excuse. Et c'est pourquoi il y a des sanctions. C'est pourquoi la communauté africaine s'engage pour lutter contre ce phénomène. C'est parce qu'on ne peut plus parler d'excuses qu'il faut maintenant passer aux mesures fortes. On a passé tout le temps à sensibiliser, à informer, à régler les problèmes à l'amiable. Mais aujourd'hui, on a tapé sur la table en disant non, il faut que ça cesse. Il faut que les enfants puissent vivre comme des enfants, connaître la vie des enfants, grandir et choisir plus tard leur conjoint ou leur conjointe. Et c'est pour, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus au stade des excuses. On est au stade maintenant de la condamnation. On est au stade de la sanction. Et oui, c'est tout cela qui peut contribuer, en tout cas, à permettre de lutter contre ce phénomène-là, ce fléau-là.
Alors, ce qui nous mène, hein, Madame la Ministre, à l'affaire des jeunes collégiennes qui ont été enlevées par Boko Haram,
ouais.
dont le monde entier a parlé encore. Alors, votre réaction par rapport à cela ? Parce qu'on est dans le même... C'est un peu le même phénomène, finalement. Et là aussi, c'est une question d'éducation. Si ces jeunes filles, elles ont été retirées par un groupe extrémiste pour ne pas aller à l'école, également.
Je dois dire que la réaction qui a été faite à travers le monde entier est à la hauteur du choc que nous avons reçu lorsque nous avons vu ces images, lorsque nous avons appris cette nouvelle. Nous avons été vraiment choqués. Et en tant que mère, en tant que femme, en tant que défenseur des droits humains, on imagine ta fille qui peut être dans ce groupe-là, on imagine ta fille qui peut être enlevée. Le Burkina Faso a aussi manifesté pour aller dénoncer cet acte-là et demander à ce que les jeunes filles puissent retourner chez elles.
On s'attend aussi à ce que la communauté internationale soit choquée quand elle voit un reportage d'une petite fille de 10 ans qui est mariée à un homme de 50 ans. Parce que finalement, c'est une victime également comme ces jeunes filles enlevées par Boko Haram ou autres.
Oui.
Alors, on va au Pakistan, Madame la Ministre. Vous avez entendu parler de cette affaire. Le 27 mai dernier, une femme enceinte a été lapidée à mort devant un tribunal de Lahore par plus de 20 hommes de sa famille pour avoir épousé l'homme de son choix chaque année au Pakistan. Mais ce n'est pas qu'au Pakistan. Des centaines de femmes, de filles sont tuées de cette manière. Votre réaction par rapport à cela ?
Je dois dire que tous ces actes constituent en fait des violations des droits humains de manière générale et des droits des femmes en particulier. Et malheureusement, les femmes sont toujours les plus grandes victimes lorsqu'il y a des situations exceptionnelles telles que la guerre ou encore des conflits ou des crises ou même la religion ou les pratiques traditionnelles. Les femmes sont toujours les plus grandes victimes. Et cela est dommage. Mais je dois dire aussi qu'il faut que nous puissions prendre des mesures. Par exemple, au Burkina, nous prônons la communication entre les religions, nous prônons la tolérance et ma réaction est toute naturelle. Ce sont des violations des droits humains, des violations des droits des femmes et c'est condamnable. C'est ce pourquoi nous nous battons. On se bat pour que ce genre d'acte-là n'existe plus, ne puisse plus exister sur Terre parce que c'est vraiment choquant.
Je vous emmène au Soudan, Madame la Ministre. Et donc, cette jeune femme chrétienne, vous en avez entendu parler, elle est condamnée à mort, elle a donné la vie en prison. Et elle a accouché d'une petite fille, une petite soudanaise. Elle attend l'exécution de la sentence après avoir refusé de renoncer à sa foi religieuse. Mais ça, c'est une femme encore courageuse. Au Soudan, de nombreuses personnes ont été menacées de la sorte et se sont converties. Mais elle a dit non. Et c'est ce qui fait qu'elle est là où elle est aujourd'hui, avec deux enfants.
Oui, on espère que la sentence ne soit pas exécutée. En tout cas, c'est mon souhait le plus ardent que la sentence ne soit pas exécutée, qu'elle puisse avoir la vie sauve et qu'elle puisse pratiquer la religion de son choix. Moi, mon pays est laïque. Mon pays permet à toute personne de choisir librement sa religion. Mon pays permet à toute personne de pratiquer librement sa religion. Et je trouve que c'est ce qui doit être fait, et c'est ce qui convient en tout cas selon les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon les droits de l'homme de manière générale. Elle est très courageuse au prix de sa vie. Elle ne veut pas renoncer à sa religion. C'est vrai que c'est un bel exemple de courage, mais à quel prix ce bel exemple de courage ? On est en droit de se questionner.
Vous pensez que c'est une affaire politique ?
Je me garde de me prononcer sur cette question parce que je ne sais pas trop, mais c'est grave. Il faut dire aussi que nous sommes dans une question de religion, c'est assez délicat.
Mais là, c'est encore la même chose. Alors, dès qu'on touche à la religion, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. C'est un peu comme la tradition, tout ça. Mais en attendant, en tant qu'humain, quand vous voyez ce genre de situation, qu'est-ce que vous ressentez ?
C'est très révoltant lorsque l'on regarde des situations de ce genre, c'est révoltant. Et c'est dommage que justement, de la même manière que la culture, la tradition, la religion, on en arrive à ce genre d'actes. Et c'est comme je disais, il faut que nous puissions dépasser tout cela qui n'honore pas la race humaine, qui n'honore aucun pays, qui n'honore pas les êtres humains eux-mêmes et qui sont vraiment contre les droits humains en fait. Parce que ce sont les droits de cette femme-là qui sont bafoué. Un des premiers droits, le droit à la vie, c'est un de ces premiers droits qui est bafoué, le droit à la liberté. Et bon, il faut lutter et il faut travailler en synergie, il faut que les défenseurs des droits de l'homme redoublent d'efforts encore. Il faut que les États, les gouvernements prennent des dispositions pour pouvoir vraiment...
Madame la Ministre, et ce sera la dernière affaire dont je voudrais vous parler avant qu'on revienne sur votre rôle à vous au Burkina dans cette campagne de lutte contre le mariage des enfants, le viol et le meurtre de deux jeunes filles encore au mois de mai 2014 dans le nord de l'Inde, a mis en évidence l'oppression sexuelle des femmes dalites qui sont exclues du système des castes. Ce sont même pas, on a l'habitude de dire la caste la plus basse, mais c'est même pas ça. Donc le drame met également en lumière les risques encourus par les femmes et les enfants vivant dans des maisons sans sanitaire, qui sont obligées de sortir, n'est-ce pas? Retour donc sur ces crimes avec Darina Nedou.
Les sinistres images de deux cousines de 14 et 15 ans pendues à un arbre à Boudouane dans l'état de l'Uttar Pradesh en Inde, après qu'elles ont été violées et étranglées le 28 mai, ont envoyé une onde de choc à travers le pays et dans le monde. Mais S.R. Dharapuri, ancien policier, aujourd'hui militant des droits humains, n'a pas été surpris par ce crime horrible. Durant ses 32 ans de service dans l'état le plus peuplé et pauvre de l'Inde, il a été témoin de beaucoup d'incidents d'exploitation de la communauté dalit. Les castes supérieures exploitent les femmes des dalits et les communautés les plus faibles comme si c'était leur droit. Et parfois, le viol est utilisé comme une arme pour supprimer de la société ces groupes qui ne sont pas en mesure de recourir à l'autodéfense. La raison principale est qu'ils sont tributaires de la caste possédant des terres et comme tels, ils sont très vulnérables. Les hommes arrêtés pour le crime sont trois frères qui ont été inculpés de viol et meurtre et deux fonctionnaires de police pour avoir tenté de dissimuler le crime. La ministre de la Femme et de l'Enfant, Maneka Gandhi, a promis de mettre en place une permanence téléphonique nationale pour les femmes et des centres de crise pour les victimes de viol. Il n'y a rien que tout ministère ou tout gouvernement puisse faire pour empêcher les gens d'être violents envers les autres, si ce n'est apporter une protection forte et une grande dissuasion. C'est l'objectif de ce gouvernement d'assurer dissuasion et protection, et nous le ferons de manière aussi efficace que possible. Mais les activistes comme Dharapuri se demandent d'où viendra cette protection, le meurtre des jeunes filles ayant exposé l'indifférence de la police vis-à-vis des communautés dalites. Quand le père d'une des victimes est allé solliciter l'aide de la police au sujet de la disparition des deux cousines, il a été interrogé sur son appartenance communautaire. Il affirme avoir été victime d'abus. Sa plainte n'a pas été enregistrée jusqu'au lendemain, quand des villageois en colère ont manifesté sous l'arbre où les filles avaient été pendues. N'ayant pas de toilette chez elles, comme plus de 600 millions d'Indiens, les adolescentes devaient sortir quand c'était nécessaire. Et c'est dans une telle situation qu'elles ont été enlevées.
Alors vous avez vu la réaction de cet ancien policier militant des droits de l'homme. Il dit qu'il n'est pas étonné. Mais ça c'est pareil, parce que des crimes comme ça, il y en a des centaines. On se souvient il y a quelques temps, c'était en Inde également. Trois petites filles, trois sœurs, c'est des enfants qui ont été violés et jetés dans un puits. Il s'est passé exactement la même chose. Les parents étaient allés à la police pour dénoncer leur disparition. La police n'a pas réagi. La police n'a pas pris la plainte. C'est exactement le même cas de figure. Donc, votre réaction par rapport à cela, Madame la Ministre ?
Je réagirai en disant que tout être humain a droit à la protection de ses droits. Tout être humain a droit vraiment à ce qu'on puisse prendre les mesures nécessaires pour vraiment protéger sa vie, protéger sa dignité, protéger son corps, etc., etc. Et donc, ces cas que vous venez de citer sont des cas malheureux, sont des cas qui choquent effectivement parce que ce sont de jeunes filles, de petites filles, pour ne pas dire des enfants. Alors, c'est toujours le même cercle vicieux dans lequel nous pataugeons parce que c'est toujours les enfants, c'est toujours les femmes et c'est vraiment malheureux de constater des cas de ce genre. Et ma réaction naturellement, c'est vraiment encore une réaction de révolte parce que chaque fois que quelqu'un a ses droits violés, chaque fois qu'une femme, un enfant, un homme a ses droits violés, c'est toujours révoltant. Mais surtout pour des enfants, c'est vraiment très difficile et c'est ce que je disais, nous avons le devoir de prendre des mesures nécessaires.
Alors, les mesures, justement, revenons sur cette campagne. Cette campagne, prévue sur 2 ans, elle va probablement durer plus longtemps. Oui. Le Burkina Faso, oui. 52% des enfants mariés. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, dans cette campagne, Madame la Ministre? Vous êtes la ministre des droits humains du Burkina Faso.
Oui c'est vrai. Au Burkina, il y a déjà des actions qui sont entreprises. Parce que je vous dis que si vous retournez dans le passé et vous mesurez, vous essayez d'évaluer, vous allez voir que le taux a baissé. Donc, il y a déjà des actions qui sont menées.
Le taux a baissé. Mais attendez, excusez-moi, parce que 52%, le taux a baissé, il était de combien?
Ben, je n'ai pas les chiffres exacts parce que les statistiques, ce n'est pas évident, mais je suis persuadée que le taux a baissé. Je suis persuadée. Mais ce que nous allons faire, ce que nous faisons déjà et que nous allons renforcer, nous allons continuer non seulement de sensibiliser, parce que pour moi, il faut faire le tout ensemble. Mais comme j'ai dit précédemment, nous avons maintenant dépassé le stade de la sensibilisation au Burkina. Nous sommes au stade de la sanction. Et devant les juridictions, il y a des jugements qui ont été rendus et qui ont condamné des personnes. Non seulement de la famille, ou encore les auteurs, ceux qui ont accepté de prendre en mariage, ceux qui ont donné en mariage, ceux qui ont été complices de ces actes-là ont été poursuivis, jugés et condamnés.
La peine d'un mari qui s'est marié avec une fille de 9 ans, de 10 ans, de 12 ans, quelle est sa peine exactement?
Ben ça dépend, parce que ça dépend des circonstances et tout, et ça dépend de l'appréciation du juge qui a en charge l'affaire. Mais je sais qu'il y a des condamnations qui ont été faites. On peut vous ressortir des chiffres en la matière, on peut vous ressortir les dispositions de la loi en la matière. Ça a déjà été...
Donc, au Burkina Faso, l'âge légal du mariage, quel est-il?
L'âge légal du mariage pour la fille, c'est 17 ans, si je ne me trompe pas.
Et pour le garçon, 18 ans?
Oui.
Pourquoi la fille plutôt que le garçon?
Je crois que nous sommes en train de faire un plaidoyer justement pour nous adapter vraiment comme il se doit à la législation, réviser notre législation. On est en train de faire un plaidoyer pour ça. Mais je pense que ce qui a dicté, ce qui a prévalu ou encore ce qui a conduit à cela, c'est que la fille, elle est beaucoup plus... On a considéré qu'elle mûrit plus vite que le garçon. C'est un certain nombre de facteurs qui avaient prévalu à ce que l'âge ne soit pas le même. Mais il y a un plaidoyer qui est fait pour qu'on puisse reviser, pour qu'on puisse vraiment revenir à des choses.
Alors justement, vous, Madame la Ministre, on lit très souvent en Afrique ces jeunes filles qui quittent l'école en général, très souvent. Hein, elles se retrouvent mariées, elles quittent l'école, elles se marient. Même si elles décident de se marier, on va dire, oh, elles ont décidé de se marier, etc. Mais la décision, une décision qu'on prend à 16 ans, est-ce qu'on peut la prendre au sérieux?
À 16 ans, de toute façon, elle ne peut pas se marier devant l'officier de l'état civil.
Mais alors,
parce qu'elle n'a pas l'âge normal.
Comment vous expliquez que dans votre pays...
L'âge requis plutôt, oui.
Comment vous expliquez que dans votre pays, il y a encore 52% de cas d'enfants mariés? Comment vous expliquez ça avec tous ces progrès dont nous parlons depuis des décennies?
Mais il faut que je rectifie, parce que le mariage chez nous, c'est le mariage légal. Et le mariage légal se fait devant l'officier de l'état civil. Et l'officier de l'état civil a le devoir de vérifier l'âge des époux avant de célébrer le mariage. Ce dont vous parlez, les 52% dont vous parlez, ce n'est pas des personnes qui passent devant l'officier de l'état civil. Ce sont des unions qui sont pratiquées dans la tradition. C'est par exemple deux familles qui s'entendent pour qu'on donne une fille à un homme en union. C'est pourquoi au départ, je n'ai pas voulu utiliser le terme mariage. J'ai utilisé le terme union. Parce que ce ne sont pas des mariages célébrés conformément à la loi.
Le mariage coutumier.
Exactement, voilà, c'est par le mariage coutumier ou quelquefois par le mariage religieux.
Le gouvernement a des moyens de vérifier ça quand même.
Mais on essaie de vérifier, c'est pourquoi je dis qu'il y a des cas où il y a des gens qui sont poursuivis et condamnés. C'est parce que justement, lorsque le gouvernement a l'information ou lorsque le gouvernement constate, on fait des enquêtes et puis on poursuit, on juge, on condamne. Mais ce n'est pas chaque fois que le gouvernement est informé, parce que vous savez, c'est très vicieux. Quand deux familles ou deux communautés s'entendent pour unir deux personnes, on a beaucoup de moyens pour dissimuler cette union pour ne pas qu'on sache. Pourquoi est-ce que l'excision existe jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que les femmes se cachent pour exciser. C'est parce que les parents se cachent pour amener les enfants pour aller les faire exciser. Mais ce sont des problèmes qui sont vicieux, ce sont des problèmes qu'il faut rechercher parce que les gens savent que c'est interdit et donc ils se cachent. Et là, il faut que le gouvernement, on met des moyens pour pouvoir retrouver, pour pouvoir enquêter, pour pouvoir détecter et poursuivre. Et là, oui, excusez-moi.
Donc on peut dire en conclusion qu'au Burkina Faso, le mariage des enfants, c'est tolérance zéro?
Mais c'est tolérance zéro. C'est tolérance zéro. Il n'est pas question qu'on célèbre le mariage entre deux personnes qui n'ont pas l'âge requis.
Merci beaucoup, oui. Madame la ministre.
C'est moi qui vous remercie.
Des droits humains.
Merci.
Du Burkina Faso.
Oui.
Julie Prudence Ninia Sanda.
C'est moi qui vous remercie de nous donner l'occasion d'échanger sur les droits humains et malheureusement, à cause de tous les cas de violation de droits que les femmes connaissent, on s'est beaucoup focalisé sur la situation dramatique de certaines femmes dans le monde et je pense que ce sont des situations à condamner, ce sont des situations contre lesquelles il faut lutter. Nous nous battons pour cela. Merci.
Merci, Madame la ministre.
Merci.
Bonne continuation.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes.